Le journal, bonjour Bernadette Chamonaz.
Bonjour, la CGT Cheminots appelle à son tour à une grève reconductible à partir du 5 décembre. Pourquoi le premier syndicat de la SNCF a-t-il longtemps hésité? La fronde contre la réforme des retraites est-elle si unitaire? Élément de réponse dans ce journal. Les Espagnols fatigués de voter, nous serons à Barcelone à la veille d'un quatrième scrutin législatif en moins de 4 ans. Claude Chaussa, condamné à 8 ans de prison pour complicité d'assassinat d'un parrain corse. Verdict qui tient compte du statut de repenti dont se réclamait l'accusé. Dans ce journal encore, la gestion de Marseille étriée par la Cour des comptes. Fed Cup hein, partout entre la France et l'Australie. Défaite de Caroline Garcia, mais Kristina Mladenovic a remporté le premier simple.
Les invités de la matinale, c'est une spéciale 30 ans de la chute du mur de Berlin avec les invités ce matin, 7h50. Le chef d'orchestre et pianiste Daniel Barenboim, et puis à partir de 8h20, en duplex de Berlin, l'historien allemand Klaus Peter Sick.
France Inter.
La CGT Cheminots appelle à son tour à une grève reconductible.
À partir du jeudi 5 décembre, la CGT Cheminots appelait déjà à la grève, mais jusqu'à présent, et contrairement à Sudrail et l'UNSA ferroviaire, elle hésitait à parler de mouvement reconductible. C'est donc chose faite depuis hier. Avec cette décision du premier syndicat de la SNCF, on peut s'attendre à une forte mobilisation contre la réforme des retraites. Et pourtant, Raphaël Ebenstein, le gouvernement pense pouvoir encore en atténuer la portée.
Il y a ceux pour qui la grève consisterait surtout, voire seulement, à défendre les actuels bénéficiaires des régimes spéciaux. Ils n'excluent pas, au moins officieusement, de lever leur préavis si le gouvernement choisit d'appliquer la clause du grand-père à la SNCF et à la RATP. Et puis il y a ceux, à l'inverse, qui ne veulent pas d'un mouvement d'apparence corporatiste pour l'opinion publique et qui revendiquent donc l'abandon de l'ensemble du projet de réforme. La nuance est de taille et la gêne de la CGT Cheminots bien palpable. Elle a ainsi attendu plusieurs semaines pour rallier l'appel à la grève reconductible initialement lancé par l'UNSA, une organisation pourtant plus réformiste et modérée. Le gouvernement compte sans doute jouer de ses potentielles divisions. Il a d'ailleurs promis des propositions spécifiques aux syndicats de la SNCF et de la RATP d'ici le 22 novembre, avec l'espoir visiblement que certains d'entre eux, à commencer par l'UNSA, renoncent au dernier moment à la grève, ce qui atténuerait forcément les perturbations redoutées sur les rails.
En tous les cas, du côté de la direction de la SNCF, on se prépare, on préfère d'ailleurs avertir les voyageurs que le trafic devrait être largement perturbé. Grandes lignes, TGV, TER, et promet aussi que tous les voyages annulés seront remboursés. Au Brésil, un comité d'accueil enthousiaste pour Lula, l'ancien syndicaliste devenu président de la République, avant de tomber pour corruption. À sa sortie de prison, des milliers de personnes ont accueilli Lula, qui, tout sourire, le poing levé, a appelé au combat alors que l'extrême droite est au pouvoir avec le président Bolsonaro.
La suite du journal, Bernadette Chamonaz.
En Espagne.
En Espagne, avec des électeurs fatigués.
Demain, ils se rendront aux urnes pour la quatrième fois en moins de 4 ans. Quatrième scrutin législatif et toujours une situation bloquée, particulièrement en Catalogne, où les acteurs n'ont pas changé, où le Parti Socialiste, donné vainqueur, n'avait pas réussi à former une coalition. Le reportage de notre envoyé spécial à Barcelone, Isabelle Labéry.
Dans les allées du marché couvert, 3 retraités enthousiastes distribuent des tracts pour un parti indépendantiste.
Que c'est le meilleur pour Catalogne. Et ya está.
Ce monsieur, il parle très bien français.
Bien sûr que je parle français. Alors, qu'est-ce que vous voulez?
Je veux tout savoir, dites-moi tout.
Mais nous, on est les premiers qu'on ne comprend rien. Pourquoi il faut voter comme ça? Et on ne peut rien faire, là.
Parce qu'il n'a pas pu trouver de partenaire de coalition après le scrutin du mois d'avril, le socialiste Pedro Sanchez a dû se résoudre à de nouvelles élections.
Je ne sais pas qui c'est son conseiller, mais il n'a pas bien conseillé.
Et dans la bouche des électeurs, il y a beaucoup de mépris pour la classe politique.
Ils ne sont pas intelligents. Alors s'ils ne sont pas capables de négocier, il faut qu'ils partent à la maison.
Interpellé devant le stand d'un marchand de légumes, Johan, étudiant originaire des Baléares, a déjà voté par correspondance et sans aucune motivation.
Voter, oui, normalement c'est utile. Mais les socialistes se prennent toujours pour le centre du monde. Le résultat sera le même que la dernière fois. Ils ne vont pas réussir à former une alliance et on retournera voter. Rien ne va changer.
Les derniers sondages prévoient une très forte abstention, de quoi favoriser la montée de l'extrême droite. Barcelone, Isabelle Labéry, France Inter.
L'actualité à l'étranger, c'est bien sûr aussi ce jour historique du 9 novembre 89 où le mur de Berlin s'écroule. 30e anniversaire célébré toute la journée en Allemagne et sur France Inter avec des reportages des invités tout au long de la journée, à commencer par cette matinale.
Oui, à 7h50 notamment, notre invité, le chef d'orchestre Daniel Barenboim. Bernadette, l'actualité en France avec la condamnation d'un ancien mafieux corse.
Claude Chaussa, ancien membre de la Brise de Mer, condamné à 8 ans de prison par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour complicité dans l'assassinat de Richard Casanova, qui était considéré comme le parrain de ce gang corse. 8 ans, c'est plus clément que les 15 ans requis par l'avocat général, qui ne reconnaissait pas le statut de repenti de l'accusé, qui a été retenu en revanche par les juges lors de Beaulieu.
Dans l'énoncé du verdict, il est dit que la Cour a tenu compte de l'aide apportée par Claude Chaussa à la justice. C'est pour cela que sa défense était hier soir satisfaite. Charles Dufranc.
Je pense que les choses ont été bien dosées. On a tenu compte, bien entendu, de la gravité des faits, mais également de l'apport de Claude Chaussa à l'œuvre de justice, qui est quand même considérable.
Reconnu aussi comme étant seulement complice de l'assassinat de Richard Casanova, Édouard Martial défendait également Claude Chaussa.
Il y a eu un grand pas de fait avec ce verdict. Chacun est à sa place. On a canonisé, pour reprendre une expression qui a été employée pendant ce procès, personne.
Du côté des parties civiles, la famille de Richard Casanova était satisfaite de le voir condamné. Nicole Casanova.
Ça fait 11 ans qu'on attend, 11 ans que je me suis battue. Voilà, il a été condamné, c'est insuffisant, mais je suis contente que la justice ait reconnu qu'il était coupable.
Pour l'avocat de la famille, Pierre Bruno, la justice, là, envoie tout de même un mauvais signal.
Donc c'est un très mauvais signal pour l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui détenues, qui entendent que pour tuer un homme, ben, on est condamné à 8 ans d'emprisonnement.
Claude Chaussa a été placé à l'isolement pour assurer sa sécurité en prison.
La gestion de la ville de Marseille, étriée par deux rapports qui viennent de fuiter, Olivier Martoc.
Deux tomes de plus de 300 pages chacun, le travail de la Chambre régionale des comptes, présidée depuis un an par un ancien préfet de région, Nasser Meda, a été pointilleux et poussé. Le premier tome aborde les aspects financiers de la gestion municipale de la dernière mandature Godin. Le manque de financement pour les écoles y est entre autres relevé. Mais le plus symptomatique du système de gouvernance, c'est la technique financière des autorisations de programme poussée à Marseille jusqu'à l'absurde. Le maire fait voter par le conseil municipal une délibération pour engager une dépense qui au final ne le sera jamais. Ça permet de faire des promesses et de la com. On découvre ainsi dans le rapport que 3 750 millions de travaux programmés n'ont jamais été réalisés. Et pour cause, les finances de la ville sont exsangues. Le second tome aborde les ressources humaines, avec les acrobaties sur le temps de travail, 32 heures effectuées au lieu de 35 payées, mais là encore pas vraiment de scoop. Surtout, aucun des faits soulevés par les juges n'a été transmis au procureur, il n'y aurait donc pas de délit. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Et ces rapports ont fuité à la veille de la manifestation de la colère qui sera organisée demain à Marseille, un an après le drame de la rue d'Aubagne, l'effondrement des deux immeubles qui avaient fait 8 morts. 6-0 en moins d'une heure. Caroline Garcia n'aura pas fait long feu face à la numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, dans le deuxième simple de la finale de la Fed Cup. C'est en Australie, c'est en ce moment. Mais rien n'est perdu pour la France, qui est à égalité un partout avec l'Australie, puisque Kristina Mladenovic a battu dans le premier simple, tout aussi sèchement, l'Australienne Anya Tomljanovic, 6-1-6-1. On écoute la numéro 1 française au micro de Jean-Pierre Blimaud.
J'en suis très fière, non, tout simplement. C'est un pur bonheur de rapporter ce premier point à la France, à l'équipe, au pays, aux copines. C'est vrai que j'ai fait un match très solide, je dirais, sur la continuité de ce que je produis maintenant depuis un moment, je trouve. Et voilà, après, ça reste du tennis, ça reste du mental. Voilà, avant l'entrée sur le court, il y avait énormément d'émotions, beaucoup de stress. Et c'est toujours un challenge avant de rentrer sur le court. On se demande toujours si on sera capable d'être présente pour ce grand moment. Et voilà, je suis juste très, très heureuse de tout simplement... ma performance est rapportée cette première victoire.
Bon, alors elle a battu qui, Patricia? Kristina Mladenovic, elle a battu qui?
Anya Tomljanovic.
Anya Tomljanovic.
51e joueuse mondiale. C'était le journal de Bernadette Chamonaz.
C'est terminé, Bernadette, c'est bien terminé. Professeur Chamonaz.
Professeur Chamonaz ce matin.